Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes arrivés au sommet de l'année liturgique. L'Église nous fait contempler ce soir et pendant ces trois jours les mystères les plus sublimes de notre religion. Et ce soir en particulier, c'est le mystère de l'Eucharistie, le mystère du sacerdoce catholique. Et puis ce grand mystère et cette grande vérité de la charité, voilà, ce nouveau précepte que notre Seigneur donne à ses apôtres et à nous tous, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il y a entre ces trois choses, donc l'Eucharistie, le sacerdoce et la charité, un lien étroit. Le sacerdoce a été institué par notre Seigneur pour perpétuer sa présence eucharistique et la messe sur la terre. Et l'Eucharistie a pour but de nous unir à Dieu en nous unissant les uns aux autres dans la charité. Voyons ces trois choses, ce nouveau précepte de la charité, le sacerdoce et l'Eucharistie. D'abord, le nouveau précepte, ce novum mandatum. Et voyons d'abord, est-ce vraiment un précepte nouveau? Parce que déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, le Seigneur a commandé « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, la nouveauté consiste en ce que l'exercice de la charité est maintenant porté à un degré supérieur. Avant, Dieu demandait, puis commandait, d'aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, il nous dit, aimez votre prochain comme je vous ai aimé. Exemplum Dei, je vous ai donné l'exemple. Et comment Jésus nous a-t-il aimés? Il nous a aimés d'un amour gratuit, un amour efficace et un amour droit. Un amour gratuit. C'est un amour de pure miséricorde, sans aucun mérite de notre part, avant même que nous l'ayons aimé, et même avant que nous n'existions. C'était une idée chère à l'apôtre Saint Jean, cet amour prévenant de Jésus. Il en parle dans ses épîtres, et ici, il introduit cette scène en disant « Cum dilexisset » quand j'ai ayant aimé ses apôtres. « Dilexisset » c'est un plus que parfait, c'est-à-dire ça désigne une action antérieure. Et saint Thomas remarque cet usage du plus que parfait pour relever cette vérité que Dieu nous a aimés le premier, avant tout. C'est un amour qu'on ne peut plus désintéresser, car Dieu n'a absolument rien à gagner en nous aimant. Et c'est un amour efficace, opérant, c'est-à-dire pas seulement un amour affectif dans notre cœur, mais effectif, qui passe aux actes. Depuis sa venue dans le monde, Jésus n'a pas cessé de faire le bien. Et son œuvre par excellence, c'est sa mort sur la croix. L'œuvre la plus efficace qui soit, qui a opéré la rédemption du genre humain et réparé surabondamment pour tous les péchés des hommes. Amour gratuit et efficace, l'amour de Jésus est aussi un amour droit, c'est-à-dire bien ordonné. Il y a un ordre dans la charité. C'est d'abord Dieu, ensuite nous-mêmes, et ensuite le prochain. Jésus meurt sur la croix d'abord par amour pour Dieu son Père, pour réparer l'offense faite à la Sainte Trinité par le péché. Et c'est ensuite pour sauver les hommes. La charité, bien comprise, a en vue d'abord les intérêts de Dieu, puis ensuite notre propre sanctification, puis celle des autres, pour qu'eux aussi ils soient en Dieu. ce n'est pas de l'égoïsme d'aimer nous-mêmes avant les autres, parce que une âme qui s'élève élève le monde. Et puis concernant la charité envers le prochain, il ne faut pas oublier que le mot prochain vient du mot latin proximus, le plus proche. Donc c'est d'abord notre famille, les paroissiens, les amis, les voisins, les autres connaissances. Il faut faire très attention aujourd'hui parce que avec les moyens de communication que nous avons, les réseaux sociaux, etc., nous avons la possibilité de savoir en temps réel ce qui se passe à l'autre bout du monde et de nous apitoyer sur le sort des personnes qui sont sinistrées par des tremblements de terre ou d'autres catastrophes naturelles. On participe à des neuvaines de prière pour guérir la fille d'un cousin, de notre voisin, et parfois on oublie que dans notre propre famille ou dans notre paroisse, il y a des personnes isolées ou dans le besoin. Il faut d'abord nous occuper avec la charité concrète. Alors, maintenant, l'Eucharistie. Ce précepte de charité est exigeant au-dessus de nos forces naturelles. Pour aimer comme Jésus a aimé, il faut qu'il nous communique ce même amour dont il était lui-même animé. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé le saint sacrifice de la messe et la communion. À la messe, Jésus nous communique, il nous applique la même charité qu'il a fait mourir sur la croix. Saint Augustin dit que ce sacrement de l'Eucharistie fait en chaque homme ce que le sacrifice de la croix a fait dans le monde. Et saint Thomas précise que la communion excite notre charité à agir, à faire des actes concrets d'amour, de générosité envers Dieu et notre prochain. Et puis la communion apaise la concupiscence qui est source d'égoïsme et donc de discorde. Ainsi l'Eucharistie opère dans l'Église et dans le monde l'union des cœurs en nous unissant tous à Dieu dans un même amour. Il ne faut jamais oublier cet aspect social de l'Eucharistie qui est extrêmement important. Jésus lui-même y insiste. Il le donne comme signe distinctif de ses disciples. « Aimez-vous les uns les autres, dit-il, c'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Comme les grains de blé broyés et mélangés ensemble pour faire une seule hostie, les fidèles sont unis entre eux par la charité pour former un seul corps, le corps mystique du Christ. Et c'est tellement beau. L'Eucharistie est le principe d'unité dans l'Église, dans nos familles, dans la paroisse, dans la société. Elle unit les époux entre eux. Elle donne aux enfants la piété filiale envers leurs parents et envers leur maître. Elle est vraiment la source de notre vie chrétienne. Comment pourrions-nous vivre sans elle? Tout ce que nous venons de dire nous montre bien l'importance de l'Eucharistie, mais en même temps, cela nous montre l'importance du prêtre. Et c'est la troisième chose, le sacerdoce, le prêtre. Qu'il est grand, le prêtre, disait saint Curé d'Ars. La grandeur du prêtre. Combien il est grand, nécessaire pour le salut du monde. Le monde a besoin de prêtres. Notre-Dame de Fatima disait « Les âmes tombent en enfer comme les flocons de neige qui tombent sur la terre, parce que personne ne prie pour elles. » Aujourd'hui, il y a si peu de messes célébrées pour le salut des âmes. Le sacrifice expiatoire n'est plus offert sur les autels. Les églises sont vides. ou bien démoli ou transformé en hôtel ou en appartement. Nascis quidem multa operari autem pauci. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Cela fait des années et des années qu'on remarque qu'il n'y a pas assez de prêtres, et la situation ne va pas en s'arrangeant, parce que la crise continue. En 1960, il y avait en France 41 000 prêtres et il y avait un millier d'ordinations par an. Et c'était même pas à l'époque la plus glorieuse de l'Église en France. En 2010, il n'y avait que 15 000 prêtres. En 2020, il y a un peu plus de 13 000. Et l'âge moyen en 2023 est 67 ans pour les prêtres. Et l'année dernière, il n'y avait que 122 ordinations. Il est temps que les jeunes gens aient le courage et la générosité de rentrer dans un couvent ou dans un monastère ou un séminaire pour sauver l'Église et les âmes. On pourrait dire aussi, il est temps que les familles donnent aux enfants l'amour de la croix et l'esprit de sacrifice nécessaire pour faire le pas. Quel honneur pour une famille de compter parmi ses membres un prêtre. Garçons et jeunes gens dans l'assistance, écoutez bien ce que je vais dire. Nous n'avons pas le droit de dire non. Si Jésus nous appelle, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a rachetés, il a un droit absolu sur notre âme. Et d'ailleurs, qui pourrait dire non à une telle proposition? Jésus nous demande de l'aider à sauver les âmes, les conduire au ciel, être l'instrument de son amour miséricordieux, d'ouvrir les portes du ciel par le baptême. Il nous donne un pouvoir divin pour remettre des péchés dans la confession. Il nous demande de célébrer la messe, de monter au calvaire avec lui pour sauver le monde, donner l'Eucharistie, l'aliment spirituel aux âmes, leur donner la vie éternelle dès ici-bas. Qui pourrait dire non à tout cela si Jésus le demande? Alors évidemment, la question capitale, c'est « Est-ce que Jésus m'appelle ?» Il y a bien sûr des signes pour connaître, des signes de la Providence. Est-ce que nous avons les aptitudes, les goûts, les avis de ceux qui nous connaissent bien? Mais attention, ne vous dites jamais « Ah, j'aimerais bien avoir une famille, donc je n'ai pas la vocation. » Détrompez-vous, parce que la vocation implique forcément un renoncement. Il faut être docile. Si jusqu'ici, vous aviez l'habitude de dire non tout le temps à la volonté de Dieu, en désobéissant aux règlements ou aux supérieurs, ou en manquant de respect, vous n'aurez pas les lumières nécessaires pour connaître votre vocation. Comment voulez-vous avoir la grâce de connaître et de dire oui à la volonté de Dieu si vous avez l'habitude de dire non? Vous savez ce qu'a dit Saint Jean Bosco. Il dit, une personne sur trois a la vocation. Alors c'était le cas à Angers, à un moment donné au Moyen-Âge, il y avait plus de prêtres, de religieux et de religieuses à Angers que de laïcs à un moment. Alors faites vous-même le calcul, ici dans cette église, ça fait pas mal. Mais quoi qu'il en soit, plusieurs ici se posent la question sans doute, et encore d'autres devraient se le poser. Soyez généreux pendant ces jours saints, priez pour connaître et pour accomplir surtout la volonté de Dieu. Vous ne le regretterez jamais. Et nous vivons des temps magnifiques parce que tout va mal. votre ministère n'en sera que plus glorieux et plus enthousiasmant. Et vous ne serez jamais en chômage. Ça, c'est sûr. Et vous allez pouvoir aussi revivre les temps héroïques de Saint-Martin et de ses compagnons qui ont converti la Gaule. Donc nous allons prier pour vous pendant cette messe et prions tous pour ceux qui sont déjà prêtres, car hélas, il y a les défections. Les prêtres ont besoin de beaucoup de prières. Donc parents, grands-parents, même vous les jeunes filles, priez pour vos fils, vos frères, vos amis, pour qu'ils aient la grâce, cette grande grâce d'être appelés à l'autel pour devenir le prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et prions tous à la très sainte Vierge Marie, la mère des prêtres, pour qu'elle nous donne des prêtres, des saints prêtres, et beaucoup de saints prêtres. Et puis, pourquoi pas, beaucoup de saints prêtres dominicains. Du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.